Anne l'a dit en introduisant cette réunion, les élections régionales qui en étaient initialement l'objet ont été reléguées au second plan par les attentats qui ont frappé Paris il y a bientôt 2 semaines. Il n'en demeure pas moins que pendant les attentats, les attaques contre les travailleurs, la guerre sociale que nous mène le patronat avec l'aide du gouvernement, tout cela continue sans trêve. Il n'y a pas si longtemps, c'était en juin 2013, Michelin supprimait 730 emplois dans son usine de Jouy-les-Tours, parachevant une évolution qui, au fil des 30 dernières années, a vu les effectifs de Michelin passer de plus de 4000 travailleurs à peine plus de 200. Cela n'a nullement empêché les bénéfices de Michelin d'être très florissants, dépassant chaque année le milliard depuis 2010. Le PDG Sénard est, avec 2 millions d'euros par an, l'un des dirigeants d'entreprise les mieux payés du pays. Et bien sûr, dans le même temps, les dividendes versés aux actionnaires sont en hausse continue. En haut de cette pyramide, bâtie sur des décennies d'exploitation des travailleurs du monde entier, la famille Michelin dispose d'une fortune évaluée à 1,45 milliard d'euros. En fait, les licenciements ont permis d'accroître la rentabilité du capital, la compétitivité de l'entreprise, comme ils disent. Car pendant que les travailleurs étaient jetés à la rue à jouer les tours, leurs camarades de Michelin à Saint-Doulchard, pour ne prendre que cet exemple, dans la même région centre, ces travailleurs voyaient le rythme de travail s'intensifier en même temps qu'augmentait fortement le nombre des accidents. Est-il besoin de dire que les pouvoirs publics, à tous les niveaux, de la commune à l'État, en passant par la région qui nous intéresse aujourd'hui, tous se sont inclinés devant la décision de Michelin, trouvant même très bien que Michelin daigne, dans sa grande bonté, envisager d'implanter en compensation dans l'agglomération tourangelle une unité de Michelin Solutions. Ce projet, qui n'aurait de toute façon offert aucune alternative aux ouvriers licenciés, puisqu'il ne concernait que des emplois d'ingénieurs et de techniciens, devait permettre, selon le PDG, la création de 40 emplois dès 2014, puis 150 à 200 d'ici 2019. À l'époque, François Bonneau, le président PS de la région Centre, se félicitait du projet de Michelin. Je cite François Bonneau. Même si les contours du projet semblent imprécis, cela prouve l'implication de Michelin dans le territoire. Moins de 2 ans après, Michelin abandonnait son projet, rangé au rayon des promesses en l'air, et François Bonneau repartait en campagne pour tenter de conserver le siège à partir duquel il distribue si bien les prébendes au patronat. Après Michelin, Safety vient à son tour d'annoncer une charrette de licenciement dans l'agglomération de Tours. À Fondettes, Safety a en effet décidé de supprimer 45 emplois et de fermer à la date du 1er février prochain l'usine B, un des 2 établissements qu'elle possède dans cette commune. Or, Safety Prod, dont dépendent les usines de Fondettes, c'est une filiale à 100% de la multinationale suédoise Sandvik, numéro 1 mondial pour les outils coupants, avec plus de 47 000 salariés au niveau mondial et un chiffre d'affaires de 9,5 milliards d'euros pour l'exercice 2014. En mars dernier, le groupe avait annoncé son objectif de réduire le nombre de ses usines au niveau mondial de 150 à 125, dans l'objectif d'améliorer sa rentabilité. À Fondettes, les travailleurs s'inquiétaient pour leurs emplois car ils avaient connaissance de la fermeture d'usines aux États-Unis, en Suède, en Finlande, en Allemagne et au Brésil. Ils s'inquiétaient d'autant plus que les effectifs n'ont pas cessé de baisser au fil des années, les départs n'étant pas remplacés par des embauches. Il y a 10 ans, Safety Prod comptait encore 345 salariés dans les 2 usines de Fondettes. Il n'y en a plus que 186 aujourd'hui. Pendant toutes ces années, le groupe n'a pas cessé de mettre en concurrence les différentes filiales et unités de production. Et en décidant d'attribuer les volumes de commandes sur ses propres critères, il lui est facile de mettre une unité dans le rouge en baissant les commandes sur plusieurs années et ensuite de décréter la fermeture. Là comme ailleurs, la recherche de rentabilité a un objectif bien précis, accroître la part des actionnaires. Les chiffres sont éloquents. Avant la crise de 2008, les actionnaires faisaient main basse en moyenne sur un peu moins de 50% du résultat net. Mais depuis 2 ans, ils pompent sous forme de dividendes plus de 70 voire 80% des bénéfices réalisés. C'est ainsi qu'en pleine baisse d'activité, le groupe a distribué sur 2 ans 930 millions de dividendes pour un bénéfice net de 1,16 milliard. Et la région là-dedans, me direz-vous ? Ben j'y viens. Safety, comme bien d'autres, s'était mis sur les rangs pour obtenir le maximum d'aide publique. Il le fit notamment grâce à la création en 2005 du CEROC, Centre de recherche sur les outils coupants. Ce centre, financé en grande partie par les collectivités locales, l'a notamment été par la région à hauteur de 5,5 millions d'euros. Le groupe se contentant d'apporter 3,5 millions pour les frais de fonctionnement. Alors, à l'époque, l'ensemble des élus de la région justifiait ce cadeau à la multinationale car, disait-il, cela ne devait pas manquer de pérenniser l'emploi à Fondette. On voit ce qu'il en résulte. Quand bien même, le conseil régional sortant se targue d'avoir mis en place une commission destinée à contrôler les aides distribuées aux entreprises. Au moment même où s'annonce la fermeture de l'usine B, tout à côté, les travailleurs de l'usine A qui produisent des plaquettes d'outils coupants sont eux en sous-effectif et cela dure depuis des années. Un sous-effectif qui se traduit à la production par l'instauration de nombreuses semaines hautes à 40 heures. Alors, pas de licenciement, reclassement de tous les salariés dans l'usine A, telles sont les revendications que les travailleurs de Safety auront l'occasion de faire entendre demain lors d'un débrayage qu'ils ont décidé aujourd'hui même en AG. Michelin, Safety, ce ne sont là que deux exemples d'entreprises très profitables qui licencient pour l'être encore davantage, jetant des familles ouvrières dans la difficulté, semant l'inquiétude chez tous les salariés et aggravant l'exploitation de ceux qui conservent un emploi. Et il faudrait accepter tout cela comme une fatalité, s'y résigner, eh bien non. Nous les travailleurs n'avons que notre emploi pour vivre, nous n'avons aucune raison de nous résigner à le perdre. L'interdiction des licenciements sous peine de réquisition des entreprises, voilà la mesure de sauvegarde qu'il faudra imposer pour sauver notre peau et tarir le flot des licenciements qui sans cesse alimente le chômage. Et puisque les uns se crèvent au travail pendant que les autres sont jetés à la rue, il ne faudra aussi imposer la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. Autre groupe qui possédait il y a peu une usine à Fizet, à Possé-sur-Cise, près d'Amboise, Pfizer fait la une de la presse économique ces jours-ci. Le trust de l'industrie pharmaceutique est en effet en train de finaliser une fusion avec un autre géant de la pharmacie, le groupe Allergan. Selon la presse, 150 milliards de dollars seraient en jeu dans cette transaction, avec pour objectif de transférer le siège social du groupe fusionné en Irlande, pays à la fiscalité plus avantageuse que celle des États-Unis où est basé Pfizer. Mais puisque c'est la crise, puisque paraît-il des entreprises sont prises à la gorge, étranglées par une fiscalité insupportable, d'où viennent donc ces 150 milliards de dollars, 141 milliards d'euros si vous jonglez plus volontiers avec les milliards d'euros? Eh bien, ils viennent de l'exploitation des milliers de salariés du groupe, d'abord. Ils viennent également du pillage des caisses de sécurité sociale via la vente des médicaments. Ils viennent encore des aides publiques et autres dégrèvements consentis par l'État et toutes les collectivités. Ils viennent plus généralement de l'abaissement de la part qui revient aux travailleurs par tous les biais que peuvent utiliser les capitalistes avec la complicité des gouvernements. Pfizer voulait dégager du cash pour se lancer dans toute une série de rachats d'entreprises et de fusions. Eh bien, qu'à cela ne tienne, rien qu'à Possé, ils ont commencé par fermer le centre de recherche, supprimant 149 emplois très qualifiés. C'était en 2008. À l'époque, celle qui est devenue la dirigeante du Fonds monétaire international et qui était alors que ministre de Sarkozy, Christine Lagarde, est venue à Possé expliquer que ce n'était pas si grave, que Pfizer allait sous peu lancer une nouvelle production et créer 440 emplois nouveaux, bien plus donc qu'il n'en supprimait. De nouvelles productions, il n'y eut jamais. Et l'effectif qui avait atteint plus de 800 dans la période précédente dépasse tout juste les 400 aujourd'hui. Quant à la grande spécialiste de l'économie, Son agenda ne lui a pas permis, hélas, de revenir à Possé faire le bilan de ses promesses d'un jour. Pfizer ferma bien d'autres activités dans le monde, tel le centre de recherche de Sandwich en Angleterre, qui comptait quelque 2000 chercheurs. À Possé, il fit le choix de céder ce qui restait, c'est-à-dire l'usine de production, à son façonnier, Fareva. La reprise fut finalisée en 2014. Vous avez sûrement entendu les défenseurs du système, hommes politiques ou journalistes, nous objecter qu'il n'y a pas que les géants du CAC 40 lorsque nous dénonçons les profits records que font les capitalistes au prix de l'appauvrissement du monde du travail. Eh bien, à notre objecteur, pas forcément de bonne foi, je répondrai que justement, Fareva, c'est l'une de ces entreprises de second rang chères à son cœur. Un de ces groupes auxquels les plus puissants sous-traitent l'exploitation directe du travail à des conditions généralement plus dures, pendant que le capital des plus puissants se concentre et se recentre sur leur cœur de métier, le fric, le fric, le fric. Mais pourquoi devrions-nous accepter de l'homme de main ce que nous subissons de son donneur d'ordre ? Quand nous retrouverons le chemin et la détermination de la lutte, oui, il nous faudra imposer la transparence sur les circuits de l'argent, imposer l'abolition du secret des affaires et le contrôle des comptes des entreprises. Nous, les travailleurs, nous devons savoir où va l'argent produit par notre travail, ce qui va aux actionnaires, ce qui va au PDG, à ces PDG grassement payés pour organiser les licenciements et nous imposer des sacrifices. On peut être sûr que ce contrôle nous permettra de vérifier que dans les caisses du grand patronat, l'argent, il y en a pour garantir l'emploi et les salaires. J'entends déjà l'objection suivante de notre objecteur, pas forcément bien intentionné. Tout cela, c'est bien beau, mais ça n'a rien à voir avec l'élection régionale, rien d'un programme avec la région. Comme nous sommes des gens patients, nous répondrons à l'objecteur qu'il a peut-être bien raison, mais nous ne nous adapterons pas à ce petit jeu ridicule et mensonger qui veut que ceux des partis qui gouvernent la région, le PS aujourd'hui, allié au Vert et au PCF, la droite hier et peut-être demain allié ou pas à l'extrême droite, dressent un bilan flatteur de leur politique régionale alors qu'ils cautionnent au niveau national une politique de soumission totale aux capitalistes qui ruine la société. Nous ne marcherons pas non plus dans ce jeu de dupes qui consiste à exposer dans tous leurs détails des programmes régionaux, même quand ceux qui les exposent, comme ceux qui les interviewent, savent pertinemment que leurs promoteurs n'ont aucune chance d'être élus, si ce n'est dans les bagages du PS ou de la droite au deuxième tour. Ainsi, lundi matin, une étudiante journaliste sur Radio Campus demandait avec candeur à notre camarade Anne Brunet « Que pensez-vous de la proposition du Front de Gauche d'instaurer un salaire étudiant ?» Comme si le Front de Gauche avait plus que nous une chance de diriger demain le Conseil régional. Comme si le PS, dans le cas improbable où il l'emporterait, allait accepter de consacrer un budget à ce type de financement. Pour conclure, je veux dire qu'il faut au moins faire entendre le plus fort possible qu'en attendant de faire rentrer dans leur gorge les propos méprisants de tous les serviteurs du grand patronat, nous ne nous inclinons pas, nous ne nous résignons pas. Nous ne nous rangeons pas derrière ces représentants du grand patronat qui ont le culot de trouver anxiogène non pas la montée de la précarité, l'incertitude de lendemain que connaissent les travailleurs, mais la simple existence du CDI. Selon ces gens-là, le contrat à durée indéterminée ferait craindre au patron de ne pas pouvoir licencier librement et sans aucune contrainte. Et ils hésiteraient donc de ce fait à embaucher, comme si des licenciements ne tombaient pas tous les jours. Les grandes entreprises ont beau avoir fait 30 milliards de profits au cours du dernier semestre, c'est au code du travail que s'attaque le gouvernement pour faire sauter les dernières entraves au droit d'exploiter sans limite. Macron, mais ce ministre, ne fait que formuler plus ouvertement ce qui constitue le fond de la politique de Valls et de Hollande. Macron a même réussi pendant le week-end à dire que ce qu'il appelle les corporatismes, comprenez les résistances à sa volonté de déréglementer à tout va, et les corporatismes donc seraient non seulement la cause de l'inefficacité sur le plan économique, mais même le terreau sur lequel pousse la frustration des individus et, de proche en proche, le terrorisme. Il fallait oser. Nous ne le cachons pas, le programme que nous mettons en avant n'est pas un programme électoral, c'est un programme de lutte, un programme de combat. Alors, à quoi sert donc alors d'être candidat à l'élection régionale Notre camarade Farida Mekdoun répondra dans quelques instants à cette question. Mais je tiens tout de même à dire que nous, les travailleurs, nous devons nous saisir de toutes les occasions de relever la tête, de faire entendre la voix de notre camp. Car unis et mobilisés, nous pouvons redevenir une force qui se fait respecter. Nous l'avons bien senti lorsque les travailleurs d'Air France ont reçu, comme ils le méritaient, les hauts cadres venus leur annoncer 2900 licenciements. Comme nous avons ressenti de la fierté lorsqu'un travailleur des chantiers essayistes de Saint-Nazaire a refusé de serrer la main de Hollande et dit ses quatre vérités à cet exécuteur des basses œuvres du grand patronat. Dire leurs quatre vérités à ces gens-là, c'est déjà un pas dans la reprise de confiance de notre camp. Il n'y a aucune raison que nous, les travailleurs, qui produisons toutes les richesses, nous acceptions d'être perpétuellement méprisés et écrasés. Voter pour la dispute ouvrière le 6 décembre, ce sera dire clairement que nous ne nous résignons pas face à la bourgeoisie et à tous ses serviteurs politiques. Ce sera faire entendre notre camp, le camp des travailleurs.